This is CKCU Literary News. Voici les actualités littéraires dans le monde francophone.
De Montréal.
Une émission consacrée à la nouvelle littérature québécoise. Fiction, poésie et essais. Une coproduction du webzine La Recrue du Mois.
Et de CKCU Literary News, réalisé par
Lucie Renaud
et Hanske Auger-Ruprecht.
Alors, Lucie Renaud, aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que, pour une fois, nous sommes ensemble et on se retrouve au Salon du Livre de l'Outaouais. Et c'est cette année sous le thème « La rivière ». Donc, le courant passe bien entre nous deux.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un plaisir de se retrouver au Salon du Livre de l'Outaouais aujourd'hui et d'être enfin sur le terrain, plutôt que dans un studio fermé et tout ça, d'être au milieu des lecteurs aussi, des auteurs et des différents intervenants du milieu littéraire.
Bon, alors, quel est ton programme pour aujourd'hui? Je crois que tu as deux entretiens à faire.
Alors, aujourd'hui, d'abord, nous rencontrerons Catherine Voyer-Léger, qui est directrice générale du regroupement des éditeurs canadiens-français du Canada, bien sûr, mais aussi qui était avant rédactrice en chef de La Recrue. Alors, ça nous fait un grand plaisir de l'accueillir et qui vient tout juste de lancer un premier recueil de textes tiré de son blog, D'étales et d'édales. Alors, Catherine, bonjour.
Bonjour, Lucie.
Bonjour, madame. Je
suis très émue de cette entrevue.
Mais voilà. Alors, allons-y donc.
Alors, Catherine, la littérature canadienne-française, déjà, on a de la difficulté à défendre le nouveau roman québécois. Est-ce que c'est un combat perdu d'avance de défendre la littérature canadienne-française?
Bien, j'espère qu'il n'est pas perdu d'avance, parce que sinon, je vais changer d'emploi. mais c'est sûr que c'est un combat. C'est un combat parce que c'est une petite littérature qui est tout près d'une autre littérature qui elle-même se sent petite. Donc, on est dans un peu dans une espèce de multiple minorisation. Parce qu'il faut défendre notre place au Québec, il faut défendre notre place dans nos communautés, qui sont des communautés qui sont assez dispersées à travers le pays, qui sont pas très organisées au plan médiatique, donc il y a du travail à faire à ce niveau-là aussi. Puis évidemment, ben là, on parle même pas du marché étranger, où comme on le sait, même le Québec a de la misère à se faire une place, donc on n'imagine pas la difficulté que nous, on peut avoir à nous faire une place dans ce marché-là.
On parle souvent des deux solitudes, des civilisations qui vivent ici aussi, mais au niveau des littératures, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième solitude avec justement cette littérature canadienne-française hors Québec?
Oui, sans doute, une troisième solitude, on peut peut-être le voir comme ça. C'est en tout cas une littérature qui est assez à cheval entre ces deux solitudes, parce que les Canadiens français ou les Franco-Canadiens, c'est des populations extrêmement diversifiées, mais ce ne sont pas des Québécois. La culture est différente, l'environnement évidemment est différent, l'histoire est très différente. Et c'est des gens qui côtoient pour la plupart de très près les communautés anglophones. Et ça marque la littérature. C'est très présent à la fois dans l'usage qui est fait de la langue. On pense tout de suite au Chiac, évidemment, mais on peut aller plus loin que ça. Il y a un travail sur la langue qui est fait dans différentes communautés, pas uniquement en Acadie. Puis aussi au niveau des thématiques, la question de l'aliénation linguistique revient beaucoup.
Tout à fait. En même temps, je pense que pour les Québécois, on n'est pas nécessairement dépaysé de lire cette autre littérature.
Non, je pense qu'on est quand même dans des similitudes. On pense au succès d'un Patrice Desbiens, par exemple, en poésie, qui a été adopté par le Québec très facilement, même si son œuvre porte sur l'aliénation linguistique. C'est quand même des préoccupations qui sont là au Québec. Et il y a aussi toute une littérature, peut-être un peu plus contemporaine, qui, elle, est moins ancrée dans la question de l'identité. Je pense que c'est normal dans une littérature qui est assez jeune, qui a 40 ans maintenant, qui est une première génération, si on veut, qui pose vraiment l'identité au cœur de ses préoccupations parce qu'un peuple est en train de se dire. Mais là, on sent, avec l'apport de l'immigration aussi, les auteurs plus jeunes, qu'on s'éloigne de ces préoccupations-là, puis qu'il y a des préoccupations qui, elles, sont plus universelle que jamais, bien que la préoccupation identitaire finit toujours par l'être aussi.
Tout à fait. Par contre, si on pense à d'essayer de jumeler, par exemple, de faire des parallèles, par exemple, avec des auteurs acadiens ou des auteurs des prairies, est-ce qu'on peut retrouver certaines thématiques dans cette littérature canadienne-française ou c'est peine perdue parce que le pays est trop grand et trop diversifié par nature?
Non, je pense qu'on peut trouver des thématiques. Ça, c'est un travail qui appartient pas aux auteurs, hein. C'est un travail intellectuel qui appartient aux gens comme nous qui s'intéressent à un paysage global. Donc, j'ai parlé de la question de l'identité, de la question linguistique, qui sont des thématiques récurrentes. Certains aspects historiques reviennent beaucoup aussi, mais on observe des thématiques qui sont plus contemporaines. Depuis quelques années, on a beaucoup, beaucoup de romans qui portent sur l'Afrique, qui sont écrits par des immigrants africains, mais pas uniquement, aussi par des immigrants français installés ici, par des Canadiens de souche, et qui s'intéressent aux problématiques africaines. Et ça se retrouve dans notre littérature. Donc, je pense que là, depuis quelques années, on organise beaucoup de tables rondes autour de cette question-là, parce que le bassin est là. Le bassin d'œuvre est là.
Par exemple, certains des auteurs qui traitent de ça que vous représentez dans le regroupement, ça serait?
Bien, on peut penser à Aurélie Reich, qui a publié il y a un an un roman qui s'appelle « Pantangu », qui est un roman sur les enfants soldats. Melchior Bonimpa, qui vit à Sudbury, qui lui a écrit toute son œuvre, porte beaucoup sur l'exil africain, sur les communautés africaines. Le dernier s'appelle « La tribu de Sangwa ». Et aussi un auteur qui vit à Toronto, qui s'appelle Didier Leclerc, qui a beaucoup écrit et travaillé autour de l'immigration africaine au Canada. Aussi en poésie, grosse influence de l'Afrique, comme Angèle Bassolé, qui elle est d'origine africaine, mais aussi Michel Dallaire, qui est quelqu'un qui a beaucoup voyagé en Afrique, Michel Therrien.
Tout à fait. Alors, cet amour de l'autre, est-ce que dans le fond, parce qu'on est en minorité dans une culture, dans la minorité de la minorité, est-ce que c'est peut-être plus facile de le laisser éclore?
Oh, ça, c'est une question difficile. Je pense que c'est sûr que quand on est dans une position minoritaire, en tout cas, on devrait être sensible aux autres minorités. C'est pas toujours le cas, mais on devrait l'être. Je pense que dans ce sens-là, il y a une ouverture. Je pense qu'il y a un côté aussi dans les communautés francophones et acadiennes face à l'immigration, entre autres, où, comprenez, quand c'est une immigration francophone, on peut pas se permettre de s'en passer parce que la survie du français dans des poches francophones qui survivent au Canada dépend beaucoup de ces gens-là. Donc, notre travail, c'est aussi de les intégrer dans nos communautés, y compris par la culture, pour arriver à enrichir nos communautés puis à maintenir le fait français.
Alors, Catherine Voyer-Léger, en tant qu'ancienne rédactrice en chef de La Recrue, tu es bien placée pour savoir que la nouvelle littérature est difficile à défendre en toutes circonstances. Est-ce que c'est encore plus difficile dans ce cas-ci de la défendre? Donc, les premiers romans, premiers recueils de nouvelles, ou est-ce qu'on en publie très peu parce que, dans le fond, il n'y a même pas assez de place pour les auteurs qui sont déjà sur...
Il y a plusieurs enjeux. Il y a peu de place. Certaines maisons d'édition vont publier des catalogues très petits de 4-5 livres par année. Si tu as quelques auteurs établis qui sont assez prolifiques, qui publient chaque année ou aux 2 ans, ça donne peu de place pour les nouveaux. Par contre, je peux pas dire qu'on les entend beaucoup. Ça, c'est notre inquiétude. La relève se fait pas beaucoup entendre. Là, ça commence depuis quelques années. On dirait qu'on, surtout en Ontario, en Acadie aussi. Mais c'est vrai que quand on va, par exemple, dans nos regroupements d'auteurs, on trouve que les têtes sont assez blanches. Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à convaincre les jeunes de nos communautés d'aller vers la parole écrite? Est-ce qu'ils se sentent dépassés parce qu'on leur dit souvent que leur français est pas bon, parce que c'est un français qui est soit très accentué, soit maculé d'anglais? Est-ce que donc ils osent pas prendre la parole par écrit? On sait pas exactement c'est quoi, mais on est préoccupé par la question de la relève. On espère là, qu'elle se fasse entendre. Chose intéressante, récemment, elle se fait beaucoup entendre en poésie. Donc, la poésie qui est souvent une parole qui arrive en début de... Bon, il y a 40 ans, les premières éditions franco-canadiennes étaient toutes la poésie. Puis là, les jeunes, en ce moment, il y a quelques romanciers, mais on les entend beaucoup en poésie.
Donc, retournerait dans le fond à une parole qui est déjà un peu plus hybride en partant parce que qui est moins sur des codes, qu'on développe son propre langage avec la poésie d'une certaine façon.
Peut-être que les gens se sentent plus à l'aise, par exemple, d'utiliser le chiac en poésie que de l'utiliser en roman. Je sais que France Daigle, qui a publié un roman tout en chiac avec lequel elle a gagné le prix du gouverneur général, disait « Ça m'a pris 25 ans à être capable de faire ça à mon père, écrire un roman en chiac, d'oser faire ça. » Donc, peut-être qu'il y a une liberté dans la parole poétique qui permet d'aller chercher de l'hybridation des langues dans laquelle les jeunes des communautés francophones et acadiennes se sentent plus à l'aise.
Tout à fait. Alors, ce salon, on doit quand même avoir une couleur particulière parce que tu y portes plusieurs chapeaux. Donc, en plus de représenter le regroupement, tu animes plusieurs tables rondes, notamment des tables rondes autour de la poésie, justement. Et aussi, bien sûr, tu es présente en tant qu'auteur. Est-ce que c'est difficile de passer d'un rôle à l'autre ici?
C'est étrange, c'est pas difficile, c'est un peu étrange parce que j'ai plusieurs rôles. C'est mon premier livre. Évidemment, j'ai beaucoup travaillé à la recrue. Je sais c'est quoi publier un premier livre. J'avais évidemment certaines inquiétudes. Je suis contente que l'Outaouais soit mon premier salon parce que j'ai ici un réseau, j'ai des gens qui me connaissent. C'est aussi une occasion de faire connaître un autre côté de moi parce qu'ici, c'est beaucoup mon réseau professionnel et étonnamment, c'est pas les gens qui savent le plus que j'écris. Donc là, il y a quelque chose comme une mise à nu qui est un peu, qui est à la fois grisante et un peu stressante, mais je vis bien là avec ça. Je suis très contente de vivre ça. Je passe d'un rôle à l'autre. Je cours un peu partout dans le salon. Là, on me voit pas assez rapidement. Puis c'est plutôt excitant, en fait.
Alors, bien, merci beaucoup, Catherine, d'avoir pris ces quelques instants au milieu d'une journée très chargée de salon pour échanger avec nous.
Merci à vous. C'est vraiment très agréable.
Alors, au revoir et au plaisir.
Au revoir. Plaisir. Très
prochaine
grand plaisir.
Prochaine fois à CKCU FM Literary News.
Maintenant, encore une fois, Catherine Voyer-Léger, animatrice d'un rendez-vous poétique au Salon du Livre de l'Outaouais, où il est question de leur élève poétique acadienne, franco-ontarienne et de l'Ouest canadien.
L'Union Ouest canadienne a été fondée en 1974. Et une des choses qui unit cette histoire, si vous voulez, c'est que dans chacun des cas, le premier livre édité est un recueil de poésie. Donc, en Acadie, c'était Cris de terre de Raymond Guy Leblanc. En Ontario, c'était un collectif, Gaston, dont tu te rappelles bien, je suppose. Et dans l'Ouest canadien, c'était un livre de Paul Savoie, un recueil de poésie aussi. Donc, on se rend compte que la poésie, qui a pourtant pas toujours très bonne réputation, est vraiment au cœur de la naissance d'une parole littéraire dans des communautés. Et on voulait profiter de ce moment au Salon du Livre pour peut-être vous donner envie de découvrir davantage la poésie en parlant avec des passionnés. Il nous manque un de nos invités, mais on a tellement peu de temps qu'on a décidé de commencer. Et quand il se joindra à nous, je vais vous le présenter avec grand plaisir. Mais je vais commencer avec nos deux invités qui sont présents. Je vais d'abord vous présenter, et après j'ai une question plus spécifique pour chacun d'entre vous. Je vais commencer avec toi, Gaston. Donc, Gaston Tremblay. Gaston est un auteur. Il vient de publier assez récemment un roman qui s'appelle Le Grand Livre. Mais il a aussi été directeur des éditions Prise de parole, du Théâtre du Nouvel Ontario, de La Nuit sur les Temps, du Monument national, avant de se consacrer à l'écriture à temps plein. Et c'est donc un des fondateurs des éditions Prise de parole. Il a connu la naissance de cette première maison d'édition franco-ontarienne. Je voulais donc te demander, Gaston, quelle place prenait la poésie dans l'effervescence qu'il y avait à Sudbury à cette époque-là, qui a permis l'émergence des éditions Prise de parole, de La Nuit sur les Temps et d'autres événements culturels?
Oui, bonjour. Je peux vous parler de l'année en question, à l'Université de l'Ancienne. Il y avait plusieurs, d'abord des chansonniers. André était déjà là, Denis Saint-Just faisait de la chanson aussi. Et puis, d'autres que moi qui écrivaient de la poésie, dès 71, 72, on avait une page dans le journal qui s'appelait Le Carrefour des Arts, dans lequel on faisait des poèmes. Ça datait du collège, en ce qui me concerne, moi j'ai toujours pensé que ça venait de là. J'ai continué à écrire au high school, ensuite à l'université. Alors, c'était une célébration. C'est devenu très rapidement une célébration de la parole en public. Au tout début, pour moi, c'était essentiellement écrit en privé, publié dans le journal de l'occasion, partagé avec des amis. Et quelques années plus tard, on a commencé à faire des célébrations de poèmes. D'ailleurs, ça a été la première, ça a été en 1974, l'avant de la poésie, à l'avant, tout de suite avant Noël. C'est organisé sous l'église Saint-Anne. Et c'est là que Robert Dixon est monté sur scène pour la première fois, à Sudbury du moins. Et il y avait aussi Denis Saint-Jules, il y avait la fille de Robert Dixon, Tiffaine, une mademoiselle Urtilise, on avait 5 ou 6, et on avait fait une mise en scène avec Fernand Doret, et c'était la première, pour moi ça a toujours été la première mise. Ensuite, tout de suite à La Nuit sur les Temps, on voulait lancer une ligne, mais l'imprimeur, qui était un anglophone très marabout, a décidé qu'il y avait d'autres priorités. Alors, on n'a pas eu notre livre, on l'a relancé au mois de mai. Et il y a eu toute une relance de poésie. C'était de la poésie orale. Hein. Faut croire qu'on était dans un endroit où la tradition littéraire n'existait pas vraiment. s'il y avait une tradition littéraire, ça passait toujours par Montréal. Ou à la rigueur, Ottawa. Il y avait à Sudbury un imprimeur qui faisait des livres sur commande, mais pas d'éditeur comme tel. À Ottawa, il y avait un éditeur de l'Université d'Ottawa, mais c'était sur le salon. Alors, on a commencé ainsi.
C'est intéressant de voir ce lien entre l'émergence de la parole poétique et l'oralité, d'autant plus que notre prochaine invitée est une femme de théâtre, donc qui n'est pas tout à fait insensible à la question de l'oralité. Donc, je présente brièvement Brigitte Hemkins. Vous avez été directrice du Théâtre du Nouvel Ontario de 1982 à 1990. Ensuite, vous êtes partie vers Montréal. Vous avez dirigé la nouvelle compagnie théâtrale avant de fonder votre propre compagnie, Similine. Vous êtes de retour dans la région depuis l'année dernière pour diriger le Théâtre français du Centre national des arts. Les différentes formes d'art prennent beaucoup de place dans votre démarche artistique. Si on suit un peu, on s'en rend compte. Quelle place prend la poésie dans cette démarche-là, à votre avis?
Je pense que j'ai toujours été attirée par les mots d'abord. Enfin, donc, la poésie dans le sens d'un texte qui n'est pas forcément dialogué. Moi, je suis très attirée par ce texte-là, qui laisse une place à l'abstraction, puis ils ont une grande place dans mon travail. Mais c'est sûr qu'on pourrait dire qu'il y a la poésie verbale, puis il y a la poésie visuelle, mais c'est peut-être pas le sujet ici. Mais c'est sûr que cette parole poétique a été très présente. Moi, j'ai eu un véritable choc. Pour avoir eu une éducation, disons, classique, j'ai eu un vrai choc amoureux la première fois que j'ai entendu des poètes franco-ontariens. Je pense que c'était à Sturgeon Falls au cours du festival franco-ontarien. Et je crois que c'était Robert Dixon, Patrice Desbiens. Et j'ai eu un vrai électrochoc cette fois-là, parce que j'avais jamais, dans mon éducation française, là, j'avais jamais entendu la poésie qui soit... si communicante, en fait, qui soit si orale, et qui fasse vibrer le monde. Alors, ces deux choses-là m'avaient frappé, non seulement la proximité de la parole, mais aussi le fait, sa capacité à communiquer avec la communauté. Et j'avoue que ça a été déterminant, je pense, dans ma vie, ça. Très, très important.
C'est intéressant que vous disiez ça, parce que, évidemment, dans le travail poétique, il y a une importance. C'est un travail de la langue. Hein. On est vraiment dans le travail du langage. Vous parlez de Dixon, de Desbiens. Comment vous le caractériseriez, ce travail de langue si particulier?
Je dirais que c'est un travail de langue qui se fait dans le sens de la démocratie, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, un effort, c'est pas lourd, là, c'est pas pénible, mais c'est de véritable communion avec le public. Donc, c'est l'opposé de chercher la transcendance, c'est l'opposé de ce qu'on appelle la poésie, ce qu'on appelle la poésie dans les livres, là, dans ce sens-là. Donc, cette parole-là avait un côté extrêmement direct, ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile à faire, hein, parce que écrire avec cette simplicité, une limpidité qui n'exclut pas les métaphores et le style, mais qui vraiment rejoint directement le cœur des gens.
Je sais que vous avez quelques extraits. Voulez-vous nous donner un exemple?
Oui!
On avait envie de vous en lire un peu, parce que parler de poésie sans en lire, c'est toujours un peu...
Alors, je vais vous lire un petit extrait d'un poème de Robert Dixon qui s'appelle, comme par hasard, Sudbury. Le regretté Robert Dixon. Et si c'était toujours ainsi, bien que cette promesse de printemps, telle une lèvre frôlant une joue, un rouge-gorge faisant son nid, toujours plein d'attente de pluie, l'amour bourgeon une graine en terre, un repas fumant qui appelle à table, l'heure de l'apéro comme un « je t'espère ». Cette fête qui est la veille de la fête, et promesse d'avril ou de canot, en eau libre, promesse de rivière. Espérance d'outarde rentrant au bercail, son sourd et unanime, un avant-vert dans les arbres, et au loin, un futur champ de grains.
Ouais,
c'est beau, hein?
C'est très beau. C'est pas de ma faute, hein, moi. Non, mais il faut savoir le lire aussi. Donc, c'est tiré de « Humain paysage en temps de paix relative » de Robert Dixon, qui est paru chez Prise de parole. Je voulais aussi, justement, je l'ai évoqué, mais qu'on parle un peu de Patrice Desbiens. Je voulais vous raconter une petite anecdote, parce que j'ai relu à peu près tout Patrice Desbiens dans les dernières semaines en préparant cette table ronde. Et comme je suis beaucoup sur les médias sociaux, je partageais des citations sur Twitter. Et à un moment donné, quelqu'un qui, j'espère qu'il n'est pas ici parce que je le qualifierai d'inculte, m'a répondu avant de porter des gens au nu, il faudrait s'assurer que les citations ne soient pas pleines d'anglicismes. Et là, je me suis dit, j'ai comme répondu, mais manifestement, vous ne savez pas qui est Patrice Desbiens, parce que si vous le saviez, vous sauriez qu'on est comme au cœur de la démarche, là. C'est-à-dire que toute une grande partie de l'œuvre de Patrice Desbiens porte sur la question de l'aliénation linguistique. Donc, évidemment, et là, on était dans les citations de l'homme invisible, qui, comme vous le savez peut-être, est une œuvre bilingue. Et je sais, Gaston, que tu nous as apporté quelque chose d'assez rare que tu as entre les mains.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le premier livre de Patrice Desbiens. Celui que personne n'a pu voir. Et j'ai eu la chance de le visiter il y a quelques années, puis il m'a permis d'aller faire une photocopie de son premier livre qui est paru à Québec. Et ça donne une idée, quand on parle de l'arrivée de Prise de parole, ça donne une idée du changement qu'il y a eu en Ontario français pour la poésie. Et là, on voit un livre qui s'appelle, qui est par les éditions La Mitaine, dans lequel Patrice a participé, il a fait de la collation, il a fait mis ça ensemble. Enfin, il nous écrit deux choses que je voudrais... Je prends deux extraits au hasard. D'abord, il y a là-dedans un poème nationaliste québécois de Patrice Desbiens. C'est rare.
Eh ben. C'est dans sa première période.
Alors, Bobinette. Alors, on se rappelle de Bobinette, les gens de ma génération. En noir et blanc, elle est pas pire. En couleur, elle est plus belle. Ses petits yeux brillent et roulent comme des billes. Elle gigote constamment. Il y a une main sous sa robe.
C'est vraiment, hein, c'est la... On ne dit pas ça, c'est que la poésie franco-ontarienne, c'est une poésie masculine quand même.
Alors, il y a un poème sur Lise Payette, mais il n'est pas vraiment présentable.
Et donc, est-ce que j'aimerais ça aussi, j'ai dit quelques mots sur L'homme invisible. Est-ce que tu te rappelles de la réception de L'homme invisible? Quand L'homme invisible est paru, quel impact ça a eu? C'est une œuvre qui va avoir, par la suite, on le sait, un impact magistral pour l'Ontario français. Je le répète, pour ceux qui ne le connaissent pas, je l'ai quelque part ici, là, dans son ancienne version, c'est une œuvre bilingue, en fait.
Oui.
Oui, c'est bilingue, mais c'est pas bilingue. C'est biculturel,
ouais.
C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la... Pardon, excuse-moi, Gaston.
Il y a une troisième trame ici, la trame qui est celle du franco-ontarien. Et c'est la différence entre l'anglais et le français.
Oui, parce que c'est pas la même chose qui est écrit en français et en anglais. C'est ça qui est beau.
Alors, on peut faire une lecture anglaise, une lecture française, une lecture anglaise-française, et ensuite se concentrer sur la troisième trame qui se développe en ellipse, comme ça, et qui est la différence entre les deux. Et c'est là que le livre est situé dans la différence.
Des choses qui se disent moins facilement en français, qui tout d'un coup peuvent être dites
c'est
en anglais.
C'est pas la même chose, je vais donner un exemple, mais je voulais vous faire la petite histoire de ce livre-là, parce que je pense que ça a eu plus d'impact à l'intérieur de l'équipe de Prise de parole que ça a eu dans le public et médias après la publication.
Mais ça a eu quand même un gros impact, disons, sur le milieu culturel aussi.
À long terme, à moyen terme. Mais à court terme, c'est passé un peu inaperçu. Mais chez nous, ça nous a poussé à prendre des décisions qui étaient très surprenantes, parce que bon, on arrivait avec une tradition qui nous arrivait des jésuites, on avait fait ça, sauf pour Robert, évidemment. Même là, Robert a eu un enseignement religieux en anglais. Cela étant dit, pour nous, en fait, l'anglais, ce n'était pas question. On avait juré, craché, etc., qu'on ne publierait jamais un livre en anglais. On nous arrive ce livre-là, qui est vraiment difficile à comprendre. On regarde ça par les quatre côtés. Et ça a été l'occasion de la première grande guerre à Prise de parole. Ça a duré à peu près 2-3 mois. Allons-nous faire ça ou non? Allons-nous un jour accepter qu'il y a, pour les franco-ontariens, une réalité culturelle anglaise et qu'il y a certainement une culture française? C'est sûr, on ne peut pas faire abstraction de l'un et de l'autre. Il a fallu accepter ça. On a perdu un membre du conseil d'administration pour l'avoir publié. Et on a lancé ce livre-là. Et plus tard, c'est devenu par le théâtre et par... par le théâtre, quelque chose qui était mieux compris et mieux accepté. On a mieux accepté notre tradition anglaise. Parce que la plupart d'entre nous avions appris l'anglais dans la ruelle dès l'âge de 4 ans. Pour moi, l'anglais, c'est de 4 à 6 ans que je l'ai appris. Alors ça, c'est la première chose.
Parce qu'un cowboy, ça ne parle pas français.
Non.
C'est bien écrit.
Ça, c'est un exemple de différence. Alors, si on lit la page 7 qui paraît deux fois, alors l'homme invisible continue son école. Il vit du bien-être social et le bien-être social vit de lui. Le tenant se place à Thames, Ontario, comme une mouche dans une fenêtre, comme une guêpe dans un jar. The invisible man tries to go on with his schooling. He's living off welfare, and welfare is living off him. Alors, c'est direct comme ça pour la première vague. Timmins, like a fire in the window, like a bee in a jar. Ensuite, en français, c'est le petit Jésus, n'ayant plus besoin de lui, est parti en voyage. C'est une récompense que ses parents lui ont offerte pour avoir été accepté à l'université. Mais, infortunément, il a laissé beaucoup de discipline derrière lui. L'homme invisible, fortunément, n'en est pas. Used to be, the invisible man was invisible in school. But now, he wanted to be a scientist and discover things, a cure for cancers, new stars, new planets. Somebody in Toronto already beat him to the discovery of penicillin. Tout ce qu'on voit, une ellipse qui se crée, en finlandais, c'est beaucoup plus de succès, beaucoup plus traditionnel, il va à l'université, il va faire des sciences, etc. Et en français, bon, il ne gagne plus le concours d'orthographe. Et ainsi, c'est l'intérêt de ça. Ça nous oblige, nous, à s'ouvrir un peu là-dessus et à réajuster notre politique éditoriale. Ça a été vraiment un genre de choc. Et je pense qu'avec le temps, une fois que ce texte-là a été vraiment connu en musique, en spectacle de poésie, en théâtre, il a fait une carrière de quoi, 30 ans, ben, au moins 30 ans.
Ça nous rajeunit pas.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était « Les actualités littéraires dans le monde francophone », une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiqué sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire!